DW. Droits et libertés.
Jusqu'à la fin de l'année dernière, l'Égypte était concentrée sur la crise économique qu'elle traverse. Elle faisait l'objet de nombreuses critiques aussi à l'international sur les violations des droits humains, son échec à instaurer des structures démocratiques et à mener des réformes politiques qui profitent vraiment à la population. Mais depuis le début de la guerre ouverte entre Israël et le Hamas à Gaza, ces considérations sont passées au second plan. L'Égypte fait office de médiatrice, alors les grandes puissances ferment les yeux sur la situation sociale et politique dans le pays. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Abdel Fattah al-Sissi. Avant l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023 et la riposte israélienne sur la bande de Gaza, le chef de l'État égyptien était considéré comme un dirigeant autocratique. On lui reprochait en Occident notamment d'être enclin à étouffer toute opposition et à réduire au silence les voix dissidentes pour s'assurer un troisième mandat présidentiel. Les organisations de défense des droits humains, nationales et internationales, ont maintes fois dénoncé le sort des prisonniers politiques. Il serait plus de 70 000 à croupir dans les prisons égyptiennes. Et même à critiquer aussi la façon dont Abdel Fattah al-Sissi est arrivé au pouvoir, en renversant par les armes son prédécesseur démocratiquement élu, Mohamed Morsi. Mais ça c'était avant, donc, la guerre ouverte à Gaza. Timothy Ikaldas, directeur adjoint de l'Institut Tahrir pour la politique au Moyen-Orient, institut basé à Washington.
Depuis le 7 octobre, l'Égypte a trouvé un certain nombre de moyens de tirer parti de la crise pour renforcer sa position géopolitique, bien qu'elle se trouve à la frontière de ce conflit et qu'elle soit directement touchée par les attaques des Houthis sur les voies maritimes de la mer Rouge, des attaques qui ont largement interrompu le passage des navires par le canal de Suez.
Depuis que le conflit fait rage entre Israël et le Hamas, les responsables américains, qatariens et égyptiens se sont réunis de nombreuses fois au Caire pour négocier la possibilité d'un accord de cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages israéliens toujours aux mains du groupe armé palestinien.
Dans le conflit israélo-palestinien, l'Égypte est en effet l'un des rares acteurs à avoir des contacts avec les différentes parties au conflit, ce qui explique que les négociations aient souvent lieu au Caire.
Christian Ashreina, chercheur à l'université Roskilde au Danemark, il a publié de nombreux écrits sur l'Égypte.
En fait, ce n'est que secondaire. Le Qatar semble jouer un rôle beaucoup plus important dans ce conflit. L'Égypte est à nouveau perçue comme un pays influent. Et el-Sissi ne l'utilise pas seulement dans ses relations extérieures, par exemple avec les Européens et les États-Unis, mais aussi sur le plan intérieur. Il joue ainsi avec le patriotisme et le nationalisme, qui sont des éléments clés de la base idéologique de son régime. Étant donné l'implication importante de l'Égypte dans la région, à l'extérieur, plus personne ne lui fait de critiques sur les violations des droits de l'homme actuellement. Ni les Européens, ni les États-Unis ne parlent plus vraiment de démocratisation ou de réformes politiques.
L'opinion publique égyptienne est largement favorable aux Palestiniens de Gaza. La société civile a beaucoup critiqué le traité de paix signé avec Israël en 1979 ou encore la coopération avec l'État hébreu et les États-Unis. Le passage égyptien de Rafah au sud de la bande de Gaza, est la seule frontière terrestre du territoire palestinien qui ne jouxte pas Israël. Ce point de passage est devenu la porte d'entrée principale pour l'aide humanitaire en direction des Gazaouis.
Ils y sont parvenus de deux manières, en coopérant avec les Israéliens sur les autorisations concernant les marchandises qui entrent à Gaza et en les aidant à maintenir le siège. Les Égyptiens ont obtenu une aide supplémentaire de la part de Washington.
La Maison-Blanche a accordé à l'Égypte la totalité de l'aide prévue cette année, 1,2 milliard d'euros en assistance humanitaire. Auparavant, Washington en retenait toujours une partie conditionnée au respect des droits humains en Égypte.
And we saw the results of this with the Secretary of State Antony Blinken.
Et nous en avons vu les résultats avec le secrétaire d'État américain. Très récemment, Antony Blinken a certifié, vraisemblablement sans y croire lui-même, que l'Égypte progressait sur le dossier des prisonniers politiques, des droits humains et des libertés, alors qu'en réalité, l'Égypte fait bien pire sur ce front. Pour chaque prisonnier politique libéré au cours de l'année écoulée, plus de deux nouvelles personnes ont été arrêtées.
Sarah Whitson, directrice exécutive de l'Organisation de défense des droits humains Dawn, basée à Washington, constate elle aussi que le nombre de personnes nouvellement incarcérées dépasse celui des prisonniers remis en liberté. Et elle tire la même conclusion de la situation actuelle.
Le président Al-Sisi a profité de la crise créée par les guerres d'Israël à Gaza et au Liban pour se positionner comme un médiateur essentiel dans le conflit. Et en réalité, c'était aussi pour détourner l'attention de la crise désastreuse des droits de l'homme et de la corruption très profonde de l'État égyptien.
L'un des prisonniers les plus célèbres d'Égypte est sans conteste l'écrivain et activiste britannico-égyptien Abd El Fattah. Âgé aujourd'hui de 42 ans, cet intellectuel est maintenu en prison alors même qu'il n'a été condamné qu'à 5 ans de réclusion fin septembre 2019 et que donc il a désormais purgé sa peine. Une mince lueur d'espoir pour El Fattah et des milliers d'autres journalistes, politiciens et dissidents emprisonnés pourrait être le prochain Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. En janvier prochain, 2025, donc, l'Égypte devra prouver qu'elle a entrepris des efforts pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Évidemment, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'est qu'une instance morale, elle n'a pas de force coercitive. Entre-temps, une petite partie seulement, et encore, des 57 milliards de dollars qui ont été investis et accordés à l'Égypte par la Banque mondiale, l'Union européenne et les pays du Golfe cette année, est effectivement parvenue jusqu'à la population égyptienne, très appauvrie par la crise économique qui dure depuis des années. L'inflation se maintient à un niveau élevé, environ 26%. Les prix des denrées alimentaires de base ont grimpé en flèche de plus de 70%. Et cette situation est particulièrement difficile pour le tiers environ des 113 millions d'Égyptiens qui se situent au niveau ou en dessous même du seuil de pauvreté. Toutefois, un espoir d'amélioration économique pourrait se profiler à l'horizon grâce à l'aide des puissances régionales. En octobre, les hauts fonctionnaires de plusieurs pays se sont rendus en Égypte Mardi dernier, par exemple, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a rencontré Al-Sisi au Caire pour discuter de futurs investissements et d'accords commerciaux. Il y a 2 ans, l'Égypte était lourdement endettée et elle espérait encore des subventions saoudiennes pour éviter un effondrement financier. Et puis un autre exemple, mercredi dernier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a atterri dans la capitale égyptienne pour des entretiens importants, c'est comme ça qu'ils ont été annoncés, avec son homologue Badr Ablati. La dernière rencontre entre les ministres des Affaires étrangères iraniens et égyptiens remontait à 2013. C'est la fin de ce magazine. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Jennifer Hollis pour les sons. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre page internet dw.com/français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.